Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 4 juin, chez Romain Dorcil à Washington, accompagné de Timothée Donangmaï. À la une de cette édition, Boko Haram frappe à nouveau.
Des dizaines de morts ont été enregistrées aujourd'hui dans l'état de Borno au Nigeria.
En RCA, le gouvernement tente de contrôler la situation, bannit les SMS et insiste sur un désarmement volontaire.
Nous avons jugé nécessaire de contrôler la situation sécuritaire et je crois que la limitation des SMS était un des moyens que nous avons jugé les plus efficaces.
On écoutera le Premier ministre André Nzapayeke.
Sous pression occidentale, la Russie dément l'existence d'un plan pour annexer ou déstabiliser l'est de l'Ukraine.
25e anniversaire des incidents de la place Tiananmen, pas de manifestation à Pékin, mais plutôt à Hong Kong. Ces points et d'autres, et nos pages sport et musique, après le journal.
Au Nigeria, des membres présumés de Boko Haram ont de nouveau attaqué aujourd'hui plusieurs villages dans l'état de Borno. Des dizaines de personnes ont été tuées, Jean-Roger Bion.
Des habitants du village d'Atagara, près de la frontière du Cameroun, ont expliqué que des hommes en uniforme sont arrivés en voiture et ont réuni la population à l'église avant d'ouvrir le feu. Des témoins ont expliqué à l'agence EPI que les militants de Boko Haram attaquent les villages, tuent et terrorisent les civils et les autorités politiques. Nglamouda Ibrahim, un fonctionnaire du gouvernement local, affirme que les islamistes ont hissé, il y a quelques semaines, leur drapeau à Ashigashiya, une localité située à la frontière avec le Cameroun, sans que les forces de sécurité ne réagissent.
Par ailleurs, le Nigeria dément un article du journal Leadership disant que 15 officiers, y compris 10 généraux, ont été passés en cour martial pour avoir collaboré avec Boko Haram. Un porte-parole de l'armée nigériane et un responsable de communication du gouvernement ont dit à la Voix de l'Amérique que l'information est fausse.
Pendant ce temps, en RCA, le Premier ministre de la Transition, André Nzapayeke, réitère son appel au désarmement volontaire du 8 juin. Le point avec Nicolas Pinault.
En prélude au désarmement volontaire du 8 juin à Bangui et ses environs, le chef du gouvernement centrafricain a rencontré ce mercredi les autorités locales. André Nzapayeke a invité les chefs de quartier et groupes à organiser le désarmement en appelant les centrafricains à l'esprit du pardon et à la cohésion sociale. Le Premier ministre a expliqué que le désarmement volontaire est une expression de la volonté de retrouver la paix sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, le président de la conférence des imams de France, l'imam Hassan Chalgoumi, est en mission de 4 jours à Bangui. Il a appelé les forces internationales à prendre leurs responsabilités.
Je ne crois pas que la religion elle-même, elle pousse à cette haine, parce que quelqu'un qui croit au message de Jésus ou de prophète Mohammed, il ne peut pas être de cette manière. Quelqu'un qui l'a à la foi dans son cœur, il ne peut pas se mouiller sa main avec de sang. Mais en même temps, je donne la responsabilité aux Européens, aux Africains, qui prennent leur responsabilité.
Et c'est ce mercredi qu'a pris fin le deuil de 3 jours décrété à la mémoire des victimes de l'attaque de l'église de Notre-Dame de Fatima.
En Libye, le Premier ministre est à peine installé que le siège du gouvernement est frappé par une roquette, sans faire de victimes toutefois. Issa Napon.
L'attaque a visé hier le 3e étage de la primature près du centre de Tripoli. Absent de ses bureaux au moment de la déflagration, le Premier ministre Ahmed Maïtik s'y est rendu aujourd'hui pour tenir le Conseil des ministres. Le cabinet sortant, conduit par Abdallah Al-Thani, conteste l'élection de M. Maïtik et dit avoir saisi la justice pour trancher. Le Premier ministre sortant a dit avoir instruit sa sécurité pour laisser entrer M. Maïtig et son équipe à la primature. Dans l'est du pays, le général dissident Khalifa Haftar a échappé ce matin à un attentat suicide. Un kamikaze a lancé sa voiture piégée contre l'un de ses quartiers généraux près de Benghazi. 3 gardes qui tentaient d'arrêter l'assaillant ont été tués. Le groupe Ansar al-Sharia avait lancé une mise en garde au général Haftar pour qu'il arrête son offensive contre les islamistes.
Les États-Unis ont appelé le président élu égyptien à mener des réformes pour assurer que le gouvernement soit responsable et transparent, tout en protégeant les droits universels de tous les Égyptiens. Le président Barack Obama prévoit de parler avec Abdel Fattah el-Sissi dans les tout prochains jours, précise un communiqué de la Maison-Blanche.
Washington se dit profondément préoccupé par l'arrestation et la disparition de dizaines de citoyens rwandais au cours des 2 derniers mois. Les autorités rwandaises ont tenu les individus au secret pendant des périodes allant jusqu'à 2 mois avant de les présenter à un tribunal, a fait savoir Mary Half, porte-parole du département d'État, dans une déclaration écrite. Madame Half a également fait état d'informations crédibles que des journalistes ont été menacés. Elle a appelé le Rwanda à respecter entièrement la liberté d'expression, y compris celle de la presse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama appelle le monde à se tenir aux côtés de ceux qui aspirent à la liberté. Dans un discours à Varsovie, le chef de l'exécutif américain a établi un parallèle entre les réformes en cours en Ukraine et les élections ayant marqué, il y a 25 ans, la fin du régime communiste en Pologne. Michel Joseph.
Monsieur Obama parlait à l'occasion de la célébration de la Journée de la Liberté, qualifiant de raz-de-marée pour la liberté les premières élections partiellement libres de Pologne en 1989. Il a déclaré que le monde reste uni face aux manœuvres sombres de la Russie en Ukraine. Pour Barack Obama, on ne devrait pas tolérer que les nations les plus fortes imposent leur volonté aux plus petites en usant des armes ou d'hommes masqués. Toute nouvelle provocation russe signifiera un isolement accru, a averti M. Obama, qui a aussi rencontré à Varsovie Petro Poroshenko, le président élu de l'Ukraine. M. Obama est maintenant à Bruxelles, où il doit participer à un sommet du G7, où il sera aussi question de l'Ukraine et des relations avec la Russie.
La Russie n'a aucun plan d'annexion ou de déstabilisation du sud-est de l'Ukraine, a déclaré le président Vladimir Poutine. Ce démenti intervient alors que les dirigeants européens lui demandent de faire pression pour que les séparatistes mettent fin à leur rébellion contre Kiev. M. Poutine a également démenti la présence en Ukraine de soldats ou d'instructeurs militaires russes. Ce mercredi, la chancelière allemande Angela Merkel a averti que Moscou ferait face à de nouvelles sanctions s'il n'arrête pas le transfert d'armes et de combattants vers l'est de l'Ukraine.
Les talibans afghans ont publié une vidéo montrant le transfert du sergent Bo Bergdahl, libéré samedi dans le cadre d'un échange de prisonniers. Lionel Gaïma.
Dans cette vidéo de 17 minutes, on peut voir Bergdahl, la tête bien rasée et vêtue d'un habit traditionnel afghan de couleur blanche. Il est assis dans une camionnette stationnée sur une colline. Il se frotte les yeux en plein soleil. Plusieurs hommes armés sont vus à proximité. Plus tard, il a été remis à des hommes qui arrivent dans un hélicoptère de type militaire. Un des hommes le conduit à l'hélicoptère portant un drapeau blanc. Deux fois dans la vidéo, on peut lire sur l'écran « Ne revenez pas en Afghanistan ». Les talibans ont libéré Bergdahl samedi en échange de 5 de leurs qui étaient détenus à la prison militaire américaine de Guantanamo Bay à Cuba.
Le gouvernement américain offre 290 millions de dollars d'assistance humanitaire pour renforcer les efforts des Nations Unies en Syrie et dans les pays voisins qui ont accueilli les réfugiés venant de la Syrie. L'annonce a été faite aujourd'hui par le secrétaire d'État américain John Kerry. Toutes les nations, a ajouté M. Kerry, ont la responsabilité d'œuvrer pour la fin du conflit syrien.
25e anniversaire des événements de Tiananmen, des dizaines de milliers de personnes ont pris part à Hong Kong à une vigile pour commémorer les massacres de 1989 dans la capitale chinoise. À Pékin même, Idriss Fall, la situation était plutôt calme.
La place Victoria de Hong Kong était illuminée de milliers de cierges tandis qu'une foule immense écoutait des discours et chansons rappelant la sanglante répression du mouvement pro-démocratie en Chine. L'activiste Ren Tse. Nous comprenons l'importance de lutter pour la démocratie en Chine, Hong Kong faisant partie maintenant de la Chine. Le Parti communiste s'oppose aux réformes politiques. Il essaie d'élire un chef de l'exécutif de Hong Kong qui ne répond qu'au gouvernement de la Chine continentale. La situation était beaucoup plus calme à Pékin où des centaines de policiers ont empêché les journalistes d'accéder à la place Tiananmen. La Maison-Blanche a exhorté la Chine à rendre compte des personnes tuées, détenues ou portées disparues depuis 1989. Le ministère chinois des Affaires étrangères accuse Washington d'ingérence dans les affaires intérieures.
Un kamikaze a causé une explosion à proximité d'un véhicule de l'armée à Islamabad, tuant 5 personnes. Selon les autorités pakistanaises, l'attentat de mercredi à Rawalpindi a été perpétré par les talibans, mais il n'a pas été revendiqué. 2 des victimes sont des officiers militaires, les 3 autres sont des civils.
Toujours au Pakistan, la police a annoncé l'arrestation des frères de la jeune femme récemment assassinée par ses parents pour avoir épousé l'homme de son choix. Farzana Parveen, âgée de 25 ans, a succombé à des coups de brique devant un tribunal de Lahore. C'était le 27 mai. Aujourd'hui, la police a confirmé l'arrestation de ses frères et d'un autre homme. Son père, qui a admis sa participation dans le crime, était déjà en prison, ainsi qu'un oncle et 2 cousins de la victime.
Voilà pour le journal. Il est 18h40 en temps universel, 13h40, plutôt 14h40 ici à Washington, chez Robin Dorsil en compagnie de Timothée Dounangma. Et vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
Au Nigeria, les manifestations de soutien aux lycéennes enlevées par Boko Haram reprennent dès demain à Abuja. La police avait interdit ces manifs, mais les organisateurs ont saisi la justice. Iris Fall a joint le professeur Joël Oluwaseum de l'Institut français à Abuja.
Non, en fait, la police avait saisi les manifs, soit 30 secondes. Il y a certaines leaders politiques de l'opposition qui veulent politiser cette action de démonstration chaque jour. Alors, le parti politique, la majorité, avait interdit la marche. Mais quand les manifestants ont saisi la cour de justice, tout de suite la cour a intervenu pour stopper la police.
Et est-ce que des manifestations sont prévues demain ou après-demain?
Effectivement, les manifestations auront lieu demain. C'est presque chaque jour toute la semaine. Nous avons prévu un point de rendez-vous où tout se rassemble. C'est devant le grand hôtel Transport Meeting à Abuja. Il y a un grand jardin là-bas, c'est là-bas le groupe Chapo.
Est-ce qu'on sait s'il y a eu des généraux de l'armée qui ont été arrêtés pour complicité avec Boko Haram?
Ah, présentement, franchement, pour vous dire la vérité, les informations n'ont pas précisé les auteurs de ceux qui sont établis les coupables, ceux qui filtrent l'information au Boko Haram. Les informations n'ont pas complètement donné aucune identité.
Et comment est-ce que les gens vivent avec la terreur de Boko Haram au quotidien? Comment est-ce que les gens vivent, les Nigérians? Est-ce que c'est la peur ou bien?
Non, pas du tout. En fait, c'est devenu une seconde nature, les Nigérians. C'est vrai de dire que les gens avaient peur, mais maintenant, chacun garde à ses occupations tranquillement, paisiblement. Il n'y a pas de peur.
Le professeur Joël Oluwaseum de l'Institut français d'Abuja.
En Centrafrique, l'utilisation des textos est suspendue jusqu'à nouvel ordre en vue de contribuer à la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Le ministère des Télécommunications a adressé une lettre aux compagnies de téléphone avec effet immédiat. Il est aussi question d'un désarmement volontaire dimanche à Bangui. Félix Yepassi Zembrou a joint le Premier ministre André Nzapayeke.
Cette mesure, faut pas voir ça comme une mauvaise mesure. Nous sommes dans une situation de crise grave. Il y a eu une grave atteinte à la sécurité de l'État. Donc, nécessairement, le gouvernement doit prendre un certain nombre de mesures pour sécuriser les institutions de l'État, pour sécuriser les populations. Donc, on ne pouvait pas se permettre, les SMS étant un des moyens les plus utilisés par les comploteurs, les manipulateurs qui manipulent notre jeunesse, qui les regroupent à travers les SMS pour leur donner de la drogue et distribuer des ressources, les traitant comme s'il s'agissait de moutons à qui on peut donner un peu d'argent et de drogue et les envoyer pour qu'ils détruisent toute leur nation. Donc nous avons jugé nécessaire de contrôler la situation sécuritaire et je crois que la limitation des SMS était un des moyens que nous avons jugé les plus efficaces. Ça ne durera que quelques jours. D'ici deux jours, je pense que cette mesure va être levée.
Oui, mais cette mesure, Monsieur le Premier ministre, est-elle efficiente dans la mesure où les abonnés à la téléphonie mobile peuvent encore utiliser d'autres moyens que le SMS, par exemple le téléphone?
Bien sûr, nous savons qu'ils peuvent utiliser d'autres moyens, mais vous savez quand même que c'est beaucoup plus difficile de téléphoner à tour de rôle à 1000 personnes que d'envoyer en une seule fois un seul message à 1000 personnes.
Cela n'affecte peut-être pas quelque peu la liberté de communication en Centrafrique?
Nous sommes dans une situation où le pays est pris en otage. Est-ce que le Centrafricain moyen a encore une liberté? Nous, aujourd'hui, nous sommes tous pris en otage par les anti-Balaka et les ex-Seleka et les autres manipulateurs et criminels qui sèment le territoire centrafricain. Alors, c'est une question de choix. Ou bien nous voulons lutter contre la criminalité de manière efficace et garantir durablement la liberté des individus, ou bien nous laissons les individus à la merci de tous ces criminels. Eh bien, nous avons choisi la protection des individus.
Le Premier ministre de la République centrafricaine, André Nzapayeke, joint à Bangui.
Au moins 30% des filles sont mariées avant 18 ans dans la majorité des pays africains. Ce taux élevé a conduit l'Union africaine à lancer une campagne de 2 ans pour mettre fin à de tels mariages. Michel Joseph.
Dans les pays en développement, 14 millions de filles de moins de 18 ans sont forcées de se marier chaque année. C'est le cas de Zenabou, nigérienne de 16 ans. Elle dit qu'elle a été retirée de l'école par ses parents pour être mariée. Son mari l'a battue si elle ne voulait pas qu'il la touche. Elle s'est enfuie chez ses parents, mais ils l'ont aussi battue et l'ont ramenée chez le mari. Elle dit qu'elle s'est finalement enfuie chez une tante et qu'elle veut retourner à l'école. La plupart de ces filles sont issues de familles peu instruites et de zones rurales, où les filles n'ont pas le pouvoir de s'opposer aux normes de la communauté. La campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage d'enfants est axée sur l'action politique et la sensibilisation. Le directeur de la Commission des affaires sociales de l'Union, Olawale Mayegun, dit que les États membres doivent mettre en œuvre des cadres juridiques de protection des enfants. La charte sur les droits de l'enfant, par exemple, comporte des dispositions claires sur les pratiques néfastes à l'égard de l'enfant. Il est très clair que la culture ou la religion ou n'importe quoi d'autre ne peut pas servir d'excuse et les États doivent prendre des mesures pour les éliminer. Les gens utilisent toutes sortes d'excuses pour perpétuer leurs habitudes, mais il n'y a aucune excuse dans la mesure où la Commission est préoccupée. 9 des 10 pays ayant les taux de mariage des enfants les plus élevés se trouvent en Afrique, à savoir le Niger, 75%, le Tchad et la République centrafricaine, 68%, la Guinée, 63%, le Mozambique, 56%, le Mali, 55%, le Burkina Faso et le Soudan du Sud, 52%, et le Malawi, 50%. La campagne « Stop au mariage des enfants » de l'Union africaine se fait en coopération avec les gouvernements africains, l'UNICEF et les organisations de la société civile. Pour Martin Mogwanja, directeur exécutif adjoint de l'UNICEF, elle doit continuer jusqu'à ce que toutes les filles dans chaque famille et chaque communauté aient atteint leur 18e anniversaire avant de se marier, a-t-il déclaré à Addis Abeba.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à-côtés de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Une équipe qu'on va suivre en particulier, Timothée Douangmaï, c'est le Cameroun. Vos espoirs pour cette équipe?
J'espère que cette fois-ci, les Lions indomptables iront loin dans cette compétition.
Parlons du Cameroun, mais à un autre niveau. Les producteurs africains de café sont réunis dans ce pays pour tenter de relancer la production en déclin depuis de nombreuses années. Selon certaines estimations, elle aurait chuté jusqu'à 70%. Nicolas Pinault.
Oui, le règne de l'Afrique sur le café et le cacao s'est achevé il y a longtemps. Si dans les années 80, le continent produisait 40% du café mondial, il ne représente aujourd'hui qu'à peine 10%. Pour l'exportateur camerounais Bouinda Albert, il ne fait aucun doute que la crise économique de la fin des années 80 et du début des années 90 a été fatale à l'Afrique. Les gouvernements africains ont suspendu leur aide financière et technique aux producteurs de café, selon lui. Parmi les autres facteurs cités pour ce déclin, le changement climatique, le vieillissement des plantations et l'abandon du secteur au profit du pétrole et autres ressources minérales. En conséquence, des millions d'Africains qui vivaient du café se sont retrouvés au chômage, souligne l'analyste Roger Betala.
Lorsque le café a des problèmes, tous les intermédiaires, les torréfacteurs, les transporteurs, les usiniers sont touchés. Deuxième chose, c'est cette difficulté à recycler cette manœuvre qui était dans le café. La perte de la compétitivité et des performances du café amène beaucoup d'intervenants à se retrouver sans emploi. Donc la baisse des prix du café sur les marchés internationaux a été très préjudiciable aux économies de cette zone.
Le PIB de nombreux pays africains a souffert de la crise du secteur, ajoute M. Betala.
Au Cameroun, par exemple, le café entrait dans la constitution du produit intérieur brut autour de 15 à 20%. Mais aujourd'hui, c'est peut-être même moins d'1% du produit intérieur brut du Cameroun aujourd'hui vient du café.
La rencontre de Yaoundé vise à identifier les moyens pour augmenter la production d'au moins 50% en 2 ans. Pour Bédimo Joseph de la Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, l'Afrique doit travailler avec les géants du café des autres continents, tels que le Brésil, qui représente aujourd'hui un tiers de la production mondiale de café.
Nous avons dans nos collections, par exemple, quand je voulais parler des collections de café arabica, on a 217 génotypes. De ces génotypes, nous faisons la sélection variétale. Pour l'instant, il y a un travail qui est fait sur le terrain avec les génotypes qui nous sont venus d'Amérique latine et que nous essayons de travailler avec les autres collaborateurs brésiliens, français, etc.
John Schroeter de l'ONG Coffee Africa ne doute pas de la capacité de pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore la République démocratique du Congo à atteindre les objectifs fixés. La consommation de café augmente à travers le monde et le café africain est appelé à rejouer un rôle de premier plan selon lui. La recherche, l'application d'engrais, le rajeunissement des plantations sont autant de mesures qui peuvent assurer la relance du secteur, affirme-t-il.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, Washington Forum vous donne un avant-goût de la Coupe du Monde de football au Brésil qui aura lieu cette année du 12 juin au 13 juillet. Quelle est votre équipe favorite? Qui a le plus de chances de remporter le tournoi de cette année? Et comment la VOA se prépare-t-elle à couvrir cet événement? Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h TU.
Et voilà, c'est notre page des sports. Nous avons Bagassi Koura avec nous ici. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Timothée, bonsoir à tous.
Alors c'est le compte à rebours qui se poursuit pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Plusieurs matchs amicaux ce soir.
Oui, les équipes qualifiées pour le Mondial continuent leur préparation. Ce soir, comme vous le dites, les Pays-Bas affrontent les pays de Galles. L'Équateur joue contre l'Angleterre, l'Italie contre le Luxembourg et les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent au Texas l'équipe du Salvador. Et on devrait savoir lors de ce match l'équipe type des éléphants.
Un joueur qu'on suivra à cette Coupe du Monde, Lionel Messi, qui reste le joueur le plus cher du monde.
Oui, le joueur le plus cher, mon ami Chérubin devrait envier son salaire. L'attaquant argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, le joueur donc dont la valeur marchande est la plus élevée sur la planète football, soit 216 millions d'euros selon une étude de l'Observatoire du football citée par l'agence France Presse. L'Observatoire du football, c'est un centre international d'études du sport qui a publié donc ce rapport ce mercredi. Le quadruple Ballon d'Or, Lionel Messi, donc, en raison d'une saison 2013-2014 en demi-teinte, enregistre un recul de 19 millions d'euros par rapport à l'an passé, mais reste presque 2 fois plus cher que son éternel rival Cristiano Ronaldo, qui lui fait 114 millions d'euros.
Et puis Bagassi, en basketball, en NBA, le basketball professionnel nord-américain, Donald Sterling est revenu à de meilleurs sentiments. Il est apparemment satisfait de la vente de son club.
Oui, mais il a eu 2 milliards, donc quoi de
dollars.
Ouais, 2 milliards de dollars, quoi de plus normal pour être satisfait. Donc l'ancien propriétaire des Los Angeles Clippers, suspendu à vie par la NBA pour racisme, a assuré qu'il était satisfait de la vente de son équipe de basketball, une vente menée à bien par son épouse. « Je me sens fabuleusement bien, je me sens très bien », a déclaré ce mercredi soir l'homme d'affaires de 80 ans à la chaîne de télévision locale NBC 4.
Bagassi, je me sentirais très bien avec même un millième de, de ces 2 milliards même.
Oui, et pour terminer, rappelons que demain, le premier match des finales nationales en NBA toujours, ces finales vont opposer les Heat de Miami, qu'on espère qu'ils vont remporter cette année encore la Coupe, malgré les vœux de Chérubin. Ils vont jouer donc contre San Antonio Spurs.
Attention, il y a mon homonyme Tim Duncan qui est de l'autre côté et qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds.
Ben, on verra bien, pourvu que ça se termine bien et qu'on entame rapidement la Coupe du Monde qui commence jeudi, hein.
Merci Bagassi.
Merci.
Voilà, Bagassi Koura pour les sports. Et tout de suite, on passe à la page musicale avec Roger Montou, notre pilote du RM Show, tous les soirs à 20h, temps universel, sur la voie de l'Amérique. Salut Roger!
Roger. Salut Gabi, salut team. Les Malewa à Kinshasa hein, sont des petits restos du quartier. On y mange, enfin bien sûr, haricots, riz, poulet, foufou, fumbois, pondou, poisson. Team, on connaît sûrement quelque chose parce qu'il a fait Kananga, Kinshasa, je sais pas. Mais Malewa, c'est aussi le son de l'artiste Werasan et de son groupe Wenge Musica Mesomer. Écoutons Techno Malewa.
Fermé, Timothée parlait d'une histoire de chenille. Moi, je n'y comprends absolument rien.
Ah, il t'a déjà tout dit. C'est vrai, ça, il t'a déjà parlé de chenille.
Ndeko, Roger, Tozanabango.
Tozanabango, ensemble.
Oui, ensemble, à Kinshasa, à Kin la Belle.
Mais,
tu parlais de Malewa, oui, mais quand j'étais là-bas, ouais. J'ai goûté à beaucoup de plats congolais, ouais. Notamment les chenilles de
oui.
La forêt.
Oui.
Excellent.
Et Tim ne croit pas qu'on mangeait chenille là-bas. Hein.
Alors, un petit coucou à tous nos amis quinois. Il faut dire, Roger. Et qu'à travers la fondation portant son nom, le président de l'orchestre, Wenge Musica Mesomer, mm-hmm. Noël Nguyama Makanda, mm-hmm. alias Werasan, a réussi à faire engager un premier groupe de 100 ex-Kuluna.
Exactement, Gabi. Les Kuluna à Kinshasa, hein, pour ceux-là qui ne savent pas si ce sont des jeunes délinquants et criminels, certains sont orphelins. La fondation Werasan trouve du travail pour ces jeunes et essaye d'améliorer leur avenir. Hein. Très louable, n'est-ce pas comme geste, Gabi?
Oui, je le pense absolument.
Ouais.
Avec cette chanson, je salue notre ami Alphonse Mwaki.
Ah oui, Alphonse, c'est un grand monsieur.
C'est ça, un grand monsieur. Werasan et Wenge Musica Mesomer dans Techno Malewa. Merci Roger.
De rien Gabi.
Roger Muntou à 20h temps universel dans le RM Show. C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Georges Léonard Sagnot avec l'assistance technique de notre ami Rachad. Nous avions pour la présentation Chérubin Dorsil
et Timothée Donangmaï.
Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. On se retrouve dans une demi-heure.